Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Apollinaire rangea ses brosses et ses pinceaux, jeta un regard au whiteout couvert de bâches. Il enjamba en grimaçant le scooter sur lequel l'attendait Oliver. Le ciel était limpide, le soleil blanc à son zénith. Difficile de se faire à l'idée qu'une tempête descendrait par ici dans moins de quelques heures. Les trois motoneiges s'engagèrent sur les traces du matin précédent. La tache vide du chantier s'éloigna derrière eux. À moins d'un kilomètre de l'épave, la frontière des eaux libres semblait pourtant se rapprocher au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient vers l'intérieur des terres. Apollinaire se cramponna à la taille d'Oliver, tandis que le convoi prenait de la vitesse. Son dos, ses cuisses et ses épaules tiraient douloureusement. Ils avaient travaillé sans relâche pendant 12 heures, s'interrompant seulement pour gober un sandwich. Cette coupure imposée ne tombait pas si mal. « Tu penses que les bâches vont tenir ?» cria-t-il à l'oreille d'Oliver. L'archéologue haussa les épaules, un geste qui pouvait aussi bien vouloir dire qu'il ne pouvait pas le savoir ou qu'il n'entendait rien par-dessus les grondements du moteur et du vent. Apollinaire tourna la tête vers les montagnes qui ciselaient la ligne d'horizon. Les allers-retours entre la base et l'épave se succédaient sans qu'il s'y habitue. Le temps du trajet, il oubliait ses muscles endoloris et les pensées qui l'habitaient quelques instants auparavant s'évaporaient dans l'atmosphère. Les larmes que le vent arrachait à ses joues étaient le mince tribut de son corps à la glace, l'aveu qu'ils étaient faits de la même eau.
Bonjour Alice Ego. Alors tu es documentariste, poétesse, romancière, tu es également créatrice de podcasts, enfin tu réalises des créations sonores, donc on aura l'occasion de revenir sur tes multiples compétences, mais aujourd'hui tu nous reçois chez toi à Nantes et je te remercie pour nous parler de ton deuxième roman qui s'intitule Tout le blanc du monde, dans lequel on retrouve ton écriture délicate, tout en pudeur et en poésie, au service encore une fois d'un récit magnifique qui nous transporte en Antarctique sur la base scientifique d'Ubuntu Bay, où, pour reprendre le quatrième de couverture, une poignée d'hommes et de femmes partagent un été. Alors parmi eux, des électriciens, des médecins, des chercheurs en botanique, on suit avec beaucoup de plaisir et d'intérêt tous leurs travaux, et notamment les travaux des archéologues qui tentent de lever le mystère autour d'une épave prise dans les glaces au siècle dernier, et puis aussi ceux des glaciologues qui observent les mouvements des icebergs en sondant leur mémoire vertigineuse. Alors tous partagent cette même expérience de vivre, pour te citer, au bord du monde, à la fois en vase clos et en même temps dans cet espace immense, difficile à définir et où l'on perd facilement ses repères, on aura l'occasion d'en reparler. Cette expérience, le lecteur la vit à travers les yeux de tes deux personnages principaux, Apollinaire, qui est un jeune, très jeune volontaire, originaire de Mayotte, qui aide aux travaux d'archéologie, et Joanne, une documentariste, ancienne interprète en zone de guerre, dont on devine le passé traumatique et qui est venu réaliser un reportage sonore sur la base scientifique. Alors avant de revenir sur les thèmes abordés à travers ces deux personnages, est-ce que tu peux nous dire comment a germé cette idée d'ancrer ton récit en Antarctique et quelles recherches ça a dû nécessiter de faire en amont ?
Alors, moi d'une façon générale, tous les projets que je porte, qu'ils soient documentaires, photos, radio ou littéraires, s'inspirent de l'ailleurs. Et de l'altérité, probablement parce que j'ai vécu aussi toute mon enfance à l'étranger sur un voilier. Et en l'occurrence, ce deuxième roman, Tout le blanc du monde, je dirais que la fascination pour les mondes polaires, elle remonte à l'adolescence. Depuis l'enfance, je suis un peu fascinée par ces milieux. Ensuite, je me suis intéressée à d'autres territoires. On va dire que j'ai laissé un peu cette fascination au repos quelque temps. Et en fait, c'est revenu à l'occasion d'un voyage en 2020 où j'ai pu me rendre à Mourmansk, dans le Grand Nord russe. Et en plus, j'ai pu m'y rendre d'une façon assez particulière depuis un train de Saint-Pétersbourg qui montait jusqu'à Mourmansk et qui durait environ 24 ou 25 heures. Donc en plus, c'est des conditions où on voit le territoire se transformer progressivement, l'environnement devenir de plus en plus blanc, de plus en plus hostile aux humains. Et j'ai eu une sorte de sentiment océanique ou de choc esthétique au bord de cet océan arctique à Mourmansk. Parce que ça éveille des sentiments assez ambivalents. C'est à la fois une expérience du sublime, c'est vraiment des paysages qui sont incroyablement beaux, et en même temps on est extrêmement fragile, vulnérable, et on sent qu'on peut pas rester là, qu'on ne peut être que de passage. Et donc ça éveille aussi ce sentiment de vulnérabilité et aussi une forme de mélancolie, de nostalgie. Parce qu'on a envie de rester là pour toujours, mais on ne peut pas, parce que ce n'est pas du tout fait pour les humains. Et donc, à partir de là, j'ai eu un peu ce déclic. Je me suis dit, je veux situer mon deuxième roman sur un territoire polaire. Et c'est en faisant des recherches, en rencontre, parce que j'aime beaucoup, d'une façon générale, me documenter assez largement avant de me lancer dans un projet littéraire ou documentaire. Donc, j'ai rencontré des glaciologues, des spécialistes en géopolitique de ces régions, et puis j'ai lu beaucoup de livres, de documentaires, et je me suis rendu compte que tout ce qui tournait autour de l'Antarctique était encore plus extrême et encore plus fascinant, peut-être. Enfin, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était déjà tous les phénomènes climatiques, géologiques, qui sont encore plus extrêmes, on peut dire, en Antarctique. C'est un continent qui est recouvert par 4000 mètres de glace, qui est entouré par le courant marin le plus puissant du monde. Ce courant est presque une sorte de pompe, de cœur battant qui alimente les autres courants de la planète. Il y a aussi tout le contexte politique de l'Antarctique. On va peut-être en reparler, mais voilà, c'est un territoire qui est régi par un traité qui a été signé en 1959, en pleine guerre froide, et qui a gelé toutes les revendications territoriales sur le continent, donc ce qui est assez hors norme et je trouve pas très connu finalement en Occident. Donc ce contexte politique qui faisait aussi écho à la paix, aux utopies, m'intéressait. Et toutes les bases scientifiques qui sont établies en Antarctique, c'est extrêmement romanesque. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est d'écrire sur un territoire où la présence des hommes est vraiment effectivement très temporaire. Dans le Grand Nord, on a des populations autochtones qui sont établies là depuis des centaines, des milliers d'années. C'est pas le cas dans le Grand Sud, où les explorations humaines, elles, sont beaucoup plus récentes.
Alors, ce qui touche en premier lieu à la lecture de ton roman, c'est, comme tu l'as dit, c'est ce regard ému porté sur le beau, sur la beauté, sur l'immatériel. On vit avec tes personnages, je trouve, des expériences sensorielles très diverses. Alors, à travers les enregistrements de Joanne, il est beaucoup question des sons, des souffles, des voix. On est bouleversé avec elle par le chant des icebergs. On imagine également, tu l'as évoqué, les conditions climatiques extrêmes auxquelles les corps doivent s'adapter. Et puis, il y a aussi une large place faite à la lumière. Tu décris, pour te citer, un espace lumineux chargé de minuscules cristaux semblables à des étoiles égarées en plein jour, imbibé de soleil. Et enfin, par contraste avec tout ce blanc, il y a ces halos de couleurs que perçoit ton personnage Apollinaire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette place faite au sens, et ce personnage, je trouve qu'il illustre bien ton imaginaire qui mêle beaucoup à la fois sensation et sensibilité.
Effectivement, en fait, les personnages de Joanne et d'Apollinaire, c'est un peu nos yeux et nos oreilles pour découvrir l'Antarctique. Et je voulais donner au lecteur une expérience très, très sensorielle de ce territoire. L'Antarctique, c'est presque un personnage, on peut dire, finalement, dans tout le blanc du monde, et que les personnages que Joanne et Apollinaire vont rencontrer. Et Joanne, elle est hyper polyglotte, elle parle couramment 8 langues, elle travaille dans la radio, donc elle a une ouïe très développée. Et Apollinaire, effectivement, a cette vision étonnante des couleurs. Il se met à voir des halos de couleurs autour des visages de ses interlocuteurs quand il arrive en Antarctique. Et le lecteur est un peu laissé avec ça, sans trop savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est magique ? Est-ce que c'est surnaturel ? Est-ce qu'il y a une explication scientifique là derrière ? Mais je voulais en tout cas, enfin, dès qu'on fait des recherches sur l'Antarctique, on se rend compte que c'est des territoires qui sont très stimulants sensoriellement. J'ai aussi ressenti ça sur le Grand Nord. Et en tout cas, travailler cette sensorialité, c'était aussi une façon de rendre compte de cette beauté, finalement, du continent qu'on peut vite avoir. On peut vite avoir tendance à assimiler les mondes polaires à des territoires froids, glacés, synonymes de mort et de désert, voilà. Alors, c'est pas les mêmes expériences, c'est pas les mêmes ressentis si on est à l'intérieur du continent antarctique qui a un côté assez désertique et si on est sur ces franges où là la mer est présente, où il y a les icebergs, où voilà, où il y a peut-être plus de points, de repères auxquels s'accrocher visuellement. Mais en tout cas, moi, je voulais donner à voir l'Antarctique comme un écosystème extrêmement riche, extrêmement vivant, fécond. Et ces deux personnages, très en éveil sensoriellement, permettent d'y accéder.
Alors c'est vrai, tu l'as dit, ce récit, en réalité, on a parlé de Joanne et Apollinaire, mais ce récit, c'est un récit à trois voix. Hein, et cette troisième voix, cet autre point de vue, on l'aborde à travers les chapitres intitulés « Glace de mer » dans un graphème en écriture inuktitut. Voilà, comme tous tes chapitres, en fait. Hein. Ces chapitres consacrés à la banquise, ils interviennent un peu comme des respirations, puisqu'en fait, les voix de Joanne et Apollinaire se succèdent, et puis parfois on a comme ça, comme une respiration, comme des pauses offertes au lecteur qui l'invite à prendre du recul, un peu à contempler. Alors est-ce que c'est une démarche, à ton avis, nécessaire pour aussi, et c'est ce que tu voulais, percevoir la fragilité de ces espaces refuges, un petit peu comme une prise de recul qui permettrait de, justement de saisir la vulnérabilité?
Alors effectivement, cette troisième voie, qui est un peu la voie de l'Antarctique, elle est arrivée en cours de route dans l'écriture. Je suis d'abord rentrée dans le récit par les personnages de Joanne et d'Apollinaire. Et puis rapidement, voilà, il y a eu cette envie de faire parler l'Antarctique, en tout cas de prendre un point de vue plus omniscient. Et à travers ce point de vue omniscient, de pouvoir aussi dézoomer, parce que donc le plus gros de l'intrigue se passe sur cette base scientifique d'Ubuntu Bay, qui est un tout petit point sur l'Antarctique. Et j'avais cette envie des fois de raconter plus vastement des choses qui se passaient autour de l'exploration de l'Antarctique, des premiers humains qui ont été à la rencontre de ce continent, souvent dans un rapport quand même de prédation et de conquête, de raconter voilà, toute la mémoire que contient les glaces. Et comme ce roman, c'est aussi la rencontre de ces personnages humains avec ce continent, c'était aussi une façon de faire se rencontrer ces deux temporalités-là, qui, dans un contexte écologique, voilà, on peut dire que actuellement, le temps de la Terre rencontre celui des humains, et il y a des décisions, des transformations en cours qui, voilà, qui font que ces deux temporalités-là se rencontrent.
Tu écris les glaciers fondent avec leur mémoire, nos plus vieilles bibliothèques se consument, l'humanité fomente son autodestruction.
Oui, ça c'est dans une espèce de manifeste qu'à un moment les personnages vont écrire, effectivement.
Alors tu parlais de temporalité, effectivement tu écris le temps, le vide se trouve en abondance en Antarctique, serait-ce pour cette raison que, contre toute attente, l'humanité y cherche une troisième voie. Alors il y a une grande réflexion menée autour de la notion du temps et de sa perception. Alors, on ne va pas dire vivre l'Antarctique parce que, comme tu le précisais tout à l'heure, on ne peut y être que de passage, mais en tout cas, expérimenter l'Antarctique, c'est appréhender un temps long, gardé en mémoire par les icebergs, mais aussi un temps qui s'étire à l'image de ce jour sans fin. Alors, cela pourrait dérouter, mais en fait, il en ressort plutôt comme une forme d'apaisement. Il y a de très beaux passages sur cette dilatation. Et puis en arrière-plan, il y a, à travers les souvenirs de Joanne notamment, il y a ce bruit sourd d'une autre temporalité, celle des conflits armés qui se jouent au loin dans d'autres espaces. Et malgré la volonté des deux personnages de s'en tenir à l'écart, le temps court finit tout de même par faire brutalement irruption. On comprend que l'Arctique devient le théâtre d'enjeux géostratégiques et pour cause, la déglaciation attise les convoitises d'exploitation des ressources naturelles et que les menaces commencent également à peser au sud sur ce territoire pourtant préservé jusqu'alors, comme tu me l'as rappelé tout à l'heure. Est-ce que cette opposition des deux temporalités, des deux temps, c'est comme pour illustrer une résistance qui serait vaine, en fait. Enfin, qu'est-ce que cela symbolise pour toi ?
Bah, ça allait avec cette idée de prendre de la hauteur sur la réalité que vont vivre les personnages humains. Ce roman, c'est vrai que c'est un peu dur, j'imagine, de le catégoriser, parce que c'est à la fois un roman d'aventure, je dirais, voilà, de personnages qui arrivent à un moment un peu charnière de leur vie et qui vont être transformés par un voyage et par les rencontres, enfin la rencontre de ce territoire, mais aussi les rencontres humaines qu'ils vont faire au sein de la base. C'est aussi un roman qui parle de ces enjeux politiques, géopolitiques et écologiques. Et puis, il y a toute cette dimension assez contemplative et poétique dans l'écriture. Donc voilà, moi, j'avais envie aussi de ne pas choisir et de cumuler un peu ces trois approches-là. Et en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui écrire un roman sur l'Antarctique. Enfin, peut-être qu'on peut, mais moi, je ne pouvais pas écrire un roman sur l'Antarctique sans... sans baigner aussi dans ces questions sur l'avenir de ce continent d'un point de vue écologique. Et pour autant, et c'est aussi des questions qui me travaillent à titre personnel, en tant que... on n'a pas besoin d'aller dans les territoires polaires pour se sentir concerné par les questions environnementales. Et pour autant... Je pense que l'enjeu, c'est un chemin de crête d'écrire une histoire, un roman qui parle d'enjeux écologiques sans verser dans quelque chose qui soit démagogique, qui dise quoi penser. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes et finalement j'avais envie que cette histoire ait rende compte aussi de cette époque qu'on traverse et du chaos que ça peut faire... que ça éveille pour beaucoup de gens. Et finalement, on voit différents personnages qui vont se positionner de différentes façons par rapport à ces questions-là. Certains qui vont être dans une forme de militantisme et de résistance, d'autres qui vont être beaucoup plus dans la contemplation et le lâcher prise, d'autres qui vont être plutôt dans une forme de quête de science et de connaissance et de préservation. Et en tout cas, voilà, je voulais donner à voir ces différentes formes de réactions que peut faire émerger notre époque. Et c'est vrai qu'une question qui me travaillait et qui est beaucoup revenue dans l'écriture de ce livre, c'est comment on trouve sa place dans un monde plus instable que jamais, et comment on gère cette ambivalence étrange entre l'émerveillement face à la beauté du monde. Et il y en a beaucoup de l'émerveillement dans ce livre, et en même temps la conscience très, très présente que ce monde il est menacé. Et ça, c'est des sentiments qui sont contradictoires, qui cohabitent dans la psychologie des personnages. Et voilà, et c'est une des choses qui se déroule dans la trique, c'est comment ils se positionnent par rapport à ça, et qu'est-ce qu'ils font de cet attachement très très fort qui se noue entre eux et l'Antarctique.
Voilà, parce qu'il est aussi beaucoup question d'introspection dans ce livre, et comme tu dis, comment ces questions écologiques, comment cette beauté, ces questions environnementales, elles nous ramènent aussi à nos propres repères. Alors, l'épave qui est l'objet des recherches des archéologues, elle est baptisée justement par ces scientifiques le whiteout, donc du nom du brouillard opaque des régions polaires, qui est, pour te citer, capable d'effacer jusqu'au contour d'un homme en quête de lui-même. Alors ce récit, comme ton autre roman, prend parfois la forme de quête identitaire dans des lieux où l'on cherche ses repères, parce qu'ils s'évanouissent dans les paysages, comme ici dans l'immensité de la banquise, ou parce qu'ils ont été brisés par la guerre, comme dans Minuit au bord du monde. Alors c'est ce qu'il semble être au cœur de ton œuvre, cette recherche d'identité dans des lieux qui ont été privés de repères. Tu écris, c'est l'œuvre de vie entière que d'écouter le vide, et c'est l'œuvre du vide de peupler l'univers des plus profondes contradictions.
Je ne l'avais jamais analysé comme ça, mais c'est un bon résumé, je trouve, effectivement. En tout cas, c'est vrai que comme ces deux romans, Minuit au bord du monde et Tout le blanc du monde, sont tous les deux des romans d'apprentissage et des romans de reconstruction aussi, on peut dire, voilà, parce que dans les deux cas de figure, c'est quand même des personnages qui ont un historique, un passé qui est difficile et qui sont clairement perdus et un peu en errance. Et c'est leur rencontre avec un territoire qui va leur permettre d'y voir plus clair. Et je pense que on est beaucoup composé, qu'on le veuille ou non. Enfin, notre identité est beaucoup construite par des territoires, en fait. On a tendance à considérer l'identité comme quelque chose, voilà, de qui surnagerait sur. Voilà, et on serait les mêmes personnes d'un territoire à un autre. Mais non, en fait, on est transformé par les lieux où on va, ou qu'on ne fasse qu'y passer, ou qu'on s'y établisse durablement. Et je pense que, bah, ayant grandi d'une façon assez nomade dans mon enfance, ayant eu cette chance de m'immerger dans beaucoup de pays différents, cette question du lien entre l'identité et le territoire m'intéresse beaucoup. Et puis je trouve que il permet de faire ces allers-retours entre l'intime et ce qui nous dépasse.
Alors effectivement, c'est aussi ce que tu fais dans Tales of the After War. Enfin, c'est aussi un thème central dans le travail que tu mènes avec Brice Handlauer.
Bah, oui, pour résumer, mes premiers projets documentaires, je les ai développés par une approche plutôt photographique entre 2016 et 2021. Je me suis rendue dans divers pays d'après-guerre. La Bosnie, l'Irlande du Nord, le Rwanda, la Géorgie et plus récemment l'Arménie en 2021 avec Brice que tu as évoqué. Et donc au départ, donc, dans une démarche photographique, j'avais ce fil rouge d'aller rencontrer des acteurs de la société civile qui s'implique dans la reconstruction des pays après un conflit, la reconstruction matérielle, économique, psychique, humaine, voilà, c'est assez protéiforme. Et ce projet a pris, enfin, cette exploration photographique, c'est d'abord appelé Tales of the After War, comme tu l'as évoqué. Là, en ce moment, ça s'appelle Une fleur entre les pierres, dans le cadre d'une exposition qui est présentée à Cosmopolis. Et chaque rétrospective va parfois mettre en lumière certains pays plutôt que d'autres. Voilà, comme, et à côté de ça, les créations sonores. Donc j'ai co-créé deux créations sonores avec Brice Handlauer, qui est aussi mon compagnon. Et notre démarche dans ces deux podcasts, enfin dans ce podcast qui contient deux pièces sonores, c'est de raconter le rapport d'habitants à un territoire qui souvent est en pleine transformation, voilà, qui a un historique souvent compliqué, et de camoufler l'identité de ces lieux avec la complicité des personnes qu'on interroge, qui vont jouer le jeu et qui vont dire mon pays, mon peuple, ma langue, et voilà, ne jamais nommer explicitement où est-ce qu'on est. Et c'est à l'auditeur d'essayer de deviner où on se trouve. Et ce procédé-là, il est un peu similaire finalement au procédé que j'ai eu dans Minuit au bord du monde, où on est dans un pays fictif d'après-guerre qu'on ressent, enfin qui est en Europe de l'Est, mais on ne sait pas exactement où c'est. Et ça permet, pour les créations sonores, l'idée c'était aussi d'inviter l'auditeur à poser sur ces territoires un regard sans préjugé. Parce que voilà, si on nommait explicitement de quel territoire on parle, ça pourrait dissuader certains. Et ça peut amener aussi à une narration qui est plus universelle et qui est simplifiée. On s'est rendu compte que quand on demandait aux gens de camoufler l'identité de leur pays, d'être assez vague sur là où on se trouve, ça les amenait à une parole qui était différente, qui était assez onirique et poétique, et un peu comme s'ils s'adressaient à des enfants en résumant des choses géopolitiques parfois assez compliquées. Et cette dimension qui est un peu de l'ordre, voilà, du conte, du récit universel qui permet de faire des ponts entre différentes zones géographiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve assez intéressant à explorer.
Oui, c'est très intéressant, effectivement. Alors, ce roman, Tout le blanc du monde, a été publié aux éditions d'Alva. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la démarche particulière de cet éditeur, puisqu'il ne publie que des autrices, que des femmes.
Tu l'as bien résumé, voilà. C'est leur parti pris, c'est de ne publier que des femmes. Je sais qu'un élément qui les intéressait dans cette histoire, c'est le fait, justement, c'est un regard, en l'occurrence féminin, sur les territoires polaires, parce qu'il n'y a pas énormément de romans sur ces régions qui ont été écrits par des femmes. Moi, la rencontre avec cette maison, elle s'est faite par l'intermédiaire d'une agence qui s'appelle Book & More. Et j'ai eu un coup de cœur avec l'éditrice qui comprenait très, très bien le propos du livre, ce que je cherchais à raconter, et qui m'a extrêmement bien accompagnée et qui a tout de suite cru aussi à cette envie de faire de l'Antarctique un personnage qui était un parti pris qui ne parlait pas à tous les éditeurs. Et on s'est aussi on a eu une belle rencontre aussi autour de ça, et c'est comme ça que s'est fait la collaboration.
Dans Samouraï, on s'intéresse au rituel d'écriture. Alors, est-ce que toi, tu en as ? Est-ce que ta pratique de l'écriture, elle est contrainte ? Est-ce que tu t'imposes certaines choses quand tu te mets au travail ?
Une des plus grandes difficultés sur l'écriture romanesque, sur d'autres formes comme la poésie, les nouvelles, je pense que c'est un peu différent, mais une des contraintes de l'écriture romanesque, c'est que c'est un vortex temporel. Ça prend énormément de temps d'écrire un roman, et le premier enjeu, la première difficulté, c'est de trouver du temps pour écrire. Mon premier roman, Minuit au bord du monde, j'avais à cette époque-là un travail salarié, enfin j'en ai eu un à plein temps, un au 4/5e, enfin donc ça a été une lutte de trouver le temps pour l'écrire. Toutes mes vacances, week-ends, congés, ils sont passés. Et je suis devenue autrice indépendante une fois que Minuit au bord du monde est sorti. Et donc là, j'ai eu un équilibre beaucoup plus doux et beaucoup plus simple pour aménager du temps pour l'écriture. Chaque auteur a des pratiques différentes. Moi, j'essaie en fait, il y a plusieurs phases dans l'écriture aussi. Quand on est à la phase de la rêverie et de l'idéation, quand on cherche son prochain sujet de roman, le temps est moins un problème et ça va être des demi-journées, des journées qu'on va prendre ici et là. Quand ça y est, l'idée est là et qu'elle a suffisamment germé et maturé. Moi, j'ai besoin d'avoir en général 2-3 demi-journées par semaine pour écrire. Et puis d'avoir aussi des phases un petit peu d'accélération, des semaines, des mois entiers où je vais faire que ça. Ce qui prend le plus de temps et d'énergie, je dirais que c'est vraiment le début d'impulsion et la fin. Et puis il y a aussi souvent ce besoin de laisser du temps entre plusieurs phase d'écriture, de pouvoir de laisser passer parfois un ou deux mois pour revenir à son manuscrit et le regarder avec un regard neuf. Donc ça, c'est cette contrainte du temps et comment on s'organise avec ça au sens large sur ce processus d'écriture qui souvent peut durer plusieurs années. Hein. Et sur les rituels, en l'occurrence pour tout le blanc du monde, j'aimais souvent commencer mes sessions d'écriture en allant soit regarder des photos d'icebergs, des photos d'artistes prises en Antarctique ou des bouts de vidéos ou de documentaires ou des articles scientifiques qui parlaient d'une nouvelle trouvaille extraordinaire sur pourquoi les icebergs seraient verts dans certains cas de figure. Ou même d'aller écouter des sons, parce qu'on peut trouver en ligne pas mal de sons de l'Antarctique, de glaciers, d'icebergs. Il y avait quelque chose d'un peu méditatif au début, où pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais essayer de m'imprégner, de m'inspirer. et ensuite d'écrire de... Alors ce processus-là, je l'utilisais beaucoup pour les chapitres justement qui sont écrits du point de vue entre guillemets de l'Antarctique, pour les personnages de Joanne et Apollinaire. Je reprenais l'intrigue, leurs intrigues personnelles là où je les avais laissées, mais pour ces chapitres là plus poétiques et un peu plus complexes à écrire, j'avais besoin de ce processus là.
Alors si tu devais maintenant plus largement trouver un mot qui résumerait l'origine de ton projet d'écriture, de ta vocation.
Alors c'est pas facile et je vais faire une réponse qui aurait pas été la même hier et qui sera pas la même demain, mais là spontanément je dirais le mot monde, peut-être parce que j'ai les deux romans que tu as portés devant les yeux, et effectivement avec ce mot monde qui revient, et le troisième roman que je suis en train d'écrire. Alors, il n'y aura pas le mot monde dans le titre parce que ce serait bien de changer un petit peu. Mais je pense que c'est quand même une obsession, un motif qui revient. C'est arrivé à certains journalistes ou libraires d'évoquer que c'était des romans monde, ou de rattacher un peu le style, les thématiques à ce mouvement de la littérature monde qui est assez compliqué à définir, mais où voilà, l'idée c'est... Les deux livres là en l'occurrence parlent de territoires qui nous sont très étrangers en Occident, qui sont des problématiques, des enjeux qui sont assez distants de ce qu'on connaît, et comme l'ailleurs et le voyage et les immersions sont ma première source d'inspiration, que j'ai eu cette chance de pouvoir commencer ma vie sur un voilier et d'avoir cet accès très privilégié au monde.
Jusqu'à quel âge alors tu as grandi sur ce voilier
et... Jusqu'à mes 10 ans, de mes 3 à 10 ans. Et donc voilà, à chaque fois, ces deux livres, je pense qu'ils parlent de territoires précis, mais ils cherchent à parler de façon un peu plus universelle du monde en général.
Et puis, on en vient déjà, on aurait pu parler, il y a tellement de choses à dire en fait sur ton écriture et sur tes livres, on aurait pu en parler pendant longtemps, mais la dernière question qui fait aussi office de générique, c'est si tu devais maintenant associer une musique à ton travail, ton univers, ton monde, pour reprendre ton terme, est-ce que tu en trouverais une? Est-ce que tu voudrais bien la partager avec nous?
Alors pareil, la première chose qui me vient, ce serait un solo de violoncelle. Peut-être parce que c'est un des instruments qui me touche le plus. Dans Minuit au bord du monde, alors il n'y a pas de violoncelle, mais il y a beaucoup de violons. Voilà, et un des personnages doit rapporter des violons dans une école de musique. Et il n'y a pas du tout de violoncelle en l'occurrence dans tout le blanc du monde, mais j'aime bien cet instrument qui est assez proche, je crois, de la voix humaine, mais qui n'est pas une voix humaine, et donc qui est troublant de ce point de vue-là, et que je trouve à la fois chaud, à la fois rassurant,
fragile aussi,
et en même temps fragile.
Eh bien, merci beaucoup, Alizé.
Merci, Audrey.
Alors, je rappelle que tu es l'autrice de deux romans, Minuit au bord du monde, qui avait été publié au Cherche Midi, et puis celui dont on vient de parler aujourd'hui, Tout le blanc du monde, publié aux éditions d'Alva. On peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies, et puis on peut aussi écouter tes travaux de création sonore sur toutes les bonnes plateformes. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien.
Merci, Audrey.
Et je vous rappelle qu'en ce moment, une campagne de dons a lieu pour soutenir la radio. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site www.jetfm.fr et pourquoi pas contribuer généreusement au projet. Alors sauvons les oreilles et soutenons JetFM.